3, 2, 1.
Knicks on Friday night. MSG is the place to be.
Oh no.
On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday.
Trois, deux, un, bonne année.
Bonne année.
Bon, Ave Knicks Week est de retour, ça y est, on est en 2023, donc le 2K23 qui est sur la miniature, eh ben, il est complètement d'actualité. Ça faisait 2 semaines, parce qu'on a eu un petit break pendant les fêtes, qu'on ne s'était pas parlé des Knicks, et comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire, et je vais avoir un bon bavard avec moi pour m'accompagner sur cet épisode de rentrée, le 40e épisode, oui, déjà 40 épisodes où on parle des Knicks, avec nos regards de fans, et donc du coup, j'espère que Seb, tu vas bien.
Eh ben écoute, ouais, bonne année à Joanie, bonne année à tout le monde.
Meilleurs vœux à tous et à
toutes. On s'en va 2 semaines.
Surtout, la santé, c'est important. Moi, j'ai un œil qui est déjà un peu en vrac. Bon, c'est pas la fête.
On s'en va 2 semaines, c'est la panique. On s'en va 2 semaines, c'est la panique.
Ah, il s'est passé beaucoup de choses.
Il était temps qu'on revienne, quoi, pour remettre les choses au clair, quoi.
Je sais pas si c'est notre absence sur YouTube qui a fait que les Knicks se sont laissés aller, mais on va devoir en parler. En tout cas, on est de retour et on espère qu'ils vont se reprendre. Allez, on perd pas plus de temps, on voit ce qui s'est passé pendant cette quinzaine de fin 2022. Alors ça y est, on a rangé les pulls moches, on a rangé le sapin, on a rangé les cadeaux, on a rangé la dinde, les marrons, les foie gras et tout ça. Je sais pas si Cody aura le cadeau de Noël qu'il souhaite quasiment tous les ans, à savoir voir les Knicks en playoff. Mais, en ce 1er janvier, enfin ce 2 janvier, parce qu'on enregistre le 2 janvier, les Knicks ont un bilan positif. Oui, ça faisait un bon moment que ça n'était pas arrivé, ça faisait 10 ans, pas moins de 10 ans que les Knicks n'avaient pas eu un bilan en positif. Ils l'ont eu à l'équilibre, mais qu'ils ne l'avaient pas eu en positif au changement de l'année. Donc voilà, on espère que cette fois-ci, ça sera signe de bonne... d'une bonne fin de saison. La dernière fois, c'était la saison 2012-2013, pour ceux qui s'en souviennent. Une saison qui s'était plutôt bien terminée, parce qu'il y avait eu un titre de champion de la division atlantique. On vise pas le titre de champion NBA, on vise pas le titre de champion de division. Mais bon, si on peut retrouver les playoffs et prolonger la saison, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Bon, Noël, tout ça, les fêtes, c'est fini. Il s'est passé des choses, et on a eu... un euro gagnant, parce que effectivement on avait fait un petit jeu de pronostic sur l'épisode précédent pour vous remercier de votre soutien et puis pour redonner un petit peu à la communauté, parce qu'on est dans la générosité. Et donc on fait un petit big up à Stéphane Raymond qui a gagné du coup le jeu concours, qui a eu le bon pronostic sur le match de Noël. Malheureusement, une défaite d'Enix de 7 points face aux Sixers. On aura l'occasion de revenir dessus dans quelques instants. On remercie également notre partenaire Naiko Graphic Shops pour le gain, le cadeau qui nous a parrainé, voilà, sur ce jeu concours, je cherchais le mot. Et donc Stéphane va recevoir très prochainement, si ce n'est pas déjà en cours, son t-shirt Do the Right Thing avec Mookie, le personnage emblématique incarné par Spike Lee à l'écran dans son classique. Donc voilà. Ça, c'était les petites bonnes choses de fin d'année, de la période des fêtes de fin d'année. Et des cadeaux. Les Knicks n'en ont pas vraiment eu en cette fin d'année. Les résultats sportifs, c'est quelque chose. Mais ils se sont aussi fait rattraper par la patrouille. Oui. Ils ont finalement écopé d'une sanction pour tampering. Eh ben ouais, a priori, les négociations pour faire signer Jalen Brunson aux Knicks n'étaient pas complètement dans la régularité de ce qu'attend la NBA. Donc ils ont été sanctionnés d'un second tour de draft 2025, d'un pic de second tour de draft 2025 pour avoir enfreint les règles. Alors on ne sait pas comment l'enquête a pu être menée au niveau des bureaux de la NBA. Ils ont sûrement découvert que le père de Jalen Brunson était Rick Brunson, qu'il avait joué aux Knicks, qu'il avait eu comme agent Léon Rose et qu'il avait été depuis peu recruté dans le coaching staff de Tom Thibodeau. Ils ont sûrement découvert que l'agent de Jalen Brunson, c'est le fils de Léon Rose. Tout ça faisant que, finalement, ils ont été sanctionnés. Bon, ce tampering, on sait que c'est un petit peu de l'hypocrisie. Ça touche les Knicks cette fois-ci, ça a touché d'autres franchises par un peu plus tôt dans la saison ou les saisons précédentes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb, de cette sanction? On s'y attendait un petit peu, on se disait
Ouais,
que
mais je suis d'accord
ça allait
avec
leur tomber dessus.
je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est se voiler la face. Non, non, vous discutez pas entre vous. Hein, vraiment, vous discutez pas entre vous jusqu'à minuit. Hein, et puis à minuit et 10 secondes, t'as le Walsh qui te dit ouais, lui il signe là, lui il signe là, lui il signe là. Donc ils se sont mis d'accord en moins de 30 secondes sur des contrats à des centaines de millions de dollars. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça.
Sachant que Jalen Brunson était un joueur au Dallas Mavericks, qu'il avait eu cette plus ou moins opportunité, cette possibilité d'être prolongé, et Dallas n'avait pas donné suite.
En février,
Donc
ouais.
on savait aussi que voilà, Dallas était un petit peu dans une situation contractuelle qui, au global, au regard de leur salary cap, leur permettait pas non plus de casser leur tirelire pour Jalen Brunson. Et donc
Mais
voilà,
le
c'était
prix
pas
était
vraiment une
bien.
surprise de le voir partir à New York.
Le prix était bien inférieur à ce qu'il a signé chez les Knicks, hein, quand il était en pourparlers. Ils avaient refusé, mais après, derrière, forcément, sa cote a explosé en deuxième partie de saison et puis sur les playoffs. Mais que quand il négocie la première fois, le prix est bien inférieur à ce qu'il a signé là cet été. Hein. Donc bon, après c'est de leur faute aussi, hein. Ils n'ont pas.
Voilà, ils l'ont perdu, ils l'ont laissé filer. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment la volonté de le garder? En tout cas, la NBA a sanctionné les Knicks. Un tour de draft
Bon,
en moins.
avec tout
Bon,
ce qu'on
bon. Au
a.
regard de tout ce qu'il y a, est-ce que ça, voilà, bon, ça permet de clore l'histoire? À voir, à voir. Mais les Knicks ont été sanctionnés. Et puis, bah, c'est la
À tout
saison,
point
c'est la
de
saison,
vue.
c'est le retour des trollers, c'est le retour des trollers. Il y en a un peu de toutes parts. On a vu Mark Berman revenir. Se moquer, on va dire, du climat new-yorkais qui était plutôt glacial hein, et vraiment polaire en cette fin d'année 2022. Lui tranquille sur un transat en Floride, le néo-retraité ou quasi-retraité hein, qui fait pas de lui. En parlant de néo-retraité, on a vu aussi lors du déplacement à Dallas l'organisation des Mavs qui a juste eu la bonne idée de mettre plein de flyers de Kemba Walker dans les gradins. Voilà, petit clin d'œil, on a récupéré votre joueur et tout, on l'a
Qui a
vu un
été
petit
excellent
peu.
d'ailleurs, qui a vraiment été déterminant dans leur victoire.
Ouais. Tu fais le troll, tu fais le troll.
Pardon.
Non mais voilà. En tout cas, avec les défaites des Knicks qui sont de retour, hein, malheureusement, et ben voilà, on retrouve aussi les trollers. Ils étaient tranquillement planqués dans le bois, comme j'aime bien le dire. Pendant la série de 8 victoires, ils sont de retour pour pointer du doigt les échecs récents des Knicks. Est-ce une surprise? Pas plus. Comme l'histoire du
Bon.
tampering et de la sanction qui pendait au nez des Knicks, voilà, les trollers de retour, on en a l'habitude, on a l'habitude.
C'est Sonics, comme ils aiment bien le dire tout le temps. Là.
Ah, c'est Sonic,
Ah
c'est
là
Sonic,
là,
c'est
cette
So
expression.
Basketix. So
Cette
Basketix.
expression même fait saigner les yeux dès que je la lis. Oh là là là. Je
Ah là
comprends
là,
pas cette
bon.
expression. Bref.
Au rayon des retours, c'est aussi la saison pour voter. Et oui, c'est parti. Les votes pour le All-Star Game sont lancés. Donc, si vous aimez supporter les Knicks, bah, pourquoi pas voter pour les joueurs de votre franchise préférée, hein?
Ben oui, il
Est-ce
faut
que
voter
tous
pour eux.
méritent une place de starter? Je suis pas certain.
On
Est-ce
s'en
que
fout.
tous iront à Utah, à Salt Lake City, pardon, en février prochain? C'est pas certain non plus. Mais bon, n'hésitez pas à aller voter. Ça se passe sur l'application, ça se passe sur le site web de la NBA, sur le League Pass. Et donc voilà, bon, régulièrement, vous pouvez voter tous les jours. Vous avez même des journées qui comptent double, triple. Donc voilà, n'hésitez pas. On pouvait prendre un petit Jalen Brunson, un Quickley, un Grimes, un R.J. Barrett, un Obi Toppin, pourquoi pas, un Mitchell Robinson, un Julius Randle.
Julius.
Voilà, il y a du choix, il y a du choix aux Knicks,
Mais
hein. Il y a du choix aux
évidemment qu'ils
Knicks.
seront évidemment qu'ils seront pas All-Star, peut-être même qu'on n'en aura aucun, mais c'est histoire de soutenir l'équipe et pas de dire oui, non, peut-être que cette année, mais on n'est pas là en tant que comment dire, observateur objectif. On est là en tant que fan de l'équipe, donc on les soutient, donc on vote pour eux. Voilà,
Et
c'est
puis
tout.
n'oublions pas que le All-Star Games n'est que de la hype, du moins pour les votes, pour les titulaires. Ensuite, voilà, les coachs viennent un peu prendre le relais pour compléter les effectifs. On parle pas de All-NBA Team, on parle pas des
Non.
joueurs qui sont les plus forts. Mais voilà, c'est une façon de mobiliser la fanbase pour soutenir son
Exactement.
équipe. Donc voilà, moi je vote tous les jours. J'ai
Tous les
toujours la même
jours.
sélection à l'Est. J'alterne un petit peu, j'avoue, entre un Grimes et un Quickly, j'alterne. Mais autrement, les autres postes, ils sont plutôt
Mais
verrouillés.
ouais, tu fais bien de me le dire ça, parce que c'est vrai que moi j'avais la tendance
Pensez-y,
à...
pensez-y, votez, votez.
J'avais tendance à mettre toujours le même 5, et c'est vrai, à mettre toujours Bronson et Grimes, et c'est vrai que je vais alterner avec Quickly. C'est vrai que jusqu'à présent, je mettais toujours le même 5 chez nous, et bon. Donc, je vais mettre du IQ, parce que c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, celui-là.
Il est plutôt pas mal.
Il mérite ses petits votes.
Allez, allez, voilà. Bon, pensez-y, mettez le pouce sur la vidéo, la cloche, les abonnements, tout ça, vous connaissez. Mais par contre, pour les votes All-Star, pensez à voter Knicks. Hein, si on le fait pas, qui va le faire? Je ne sais pas.
Exactement.
Bon, allez, c'est maintenant le moment de repartir sur les matchs qui se sont déroulés. Donc, on s'était quitté juste avant les matchs de Noël.
On était
Les
bien.
Knicks étaient très bien. Ils n'arrêtaient pas de gagner. Hein. Ils avaient la meilleure série de victoires dans la ligue. Oui. C'est pas des blagues. Depuis, bah, les choses ont un petit peu évolué. Il y a eu quelques blessures. Il y a eu des matchs un petit peu loupés. Comment ça s'est passé cette quinzaine? Alors, pour revenir sur les matchs dans l'ordre chronologique, on va faire une rapide rétrospective. On a eu d'abord la réception des Golden State Warriors au Madison Square Garden. Bon, un match où il y avait des absences côté Warriors, ça vous le savez. Steph Curry qui est sur la touche depuis un petit moment. Et puis des Warriors qui n'étaient pas dans la meilleure de leur forme, de leur période. Hein. Ils enchaînent plutôt les défaites à l'extérieur. Ça s'est terminé par un blowout de 40 points. Oui, 40 points en différentiel pour les Knicks. Une victoire facile, large, un retour à la maison qui était plutôt victorieux, sous les belles couleurs du City Edition. Ensuite, ben, c'était la réception des Toronto Raptors. Là, ça s'est moins bien passé. Hein, Pascal Siakam qui a voilà, marché sur les Knicks, incapable d'être
Et sur les
arrêté,
lancers francs.
freiné. Voilà, le Camerounais qui a scoré plus d'une cinquantaine de points, donc il s'est fait plaisir, le fameux Cessonix, de marquer des tonnes de points sur la défense à New York. Donc là, voilà, premier coup d'arrêt pour la série victorieuse. Et puis derrière, réception aussi des Chicago Bulls, un match plus accroché, tellement accroché qu'il était pareil dans la capacité d'être un match victorieux pour New York, et finalement une défaite d'un point sur une action en toute fin de match avec un DeMar DeRozan qui
Ouais,
fait le
c'était écrit,
closer, hein,
ça.
qui shoot son mid-range avec la faute. Et voilà, une défaite frustrante, la première, j'ai envie de dire. Derrière, match de Noël. Bon, est-ce que les Knicks allaient pouvoir se rattraper? Une bonne première mi-temps, mais un duo Harden-Joel Embiid qui passe son temps sur la ligne des lancers francs. Alors oui, ils héritent de fautes tout à fait légitimes, mais bon, ça shoote vraiment beaucoup aux lancers francs. C'est pas les matchs le plus plaisants parce que c'est des matchs qui sont quand même très arrêtés, très hachés. Et les Knicks qui n'avaient pas la capacité d'arrêter ces deux joueurs-là, c'est compliqué en même temps. Hein, on parle de joueurs de type All-Star, n'ayons pas peur des mots. Et pour Joel Embiid, parfois un joueur de calibre MVP. Donc c'est compliqué quand on a ces deux joueurs-là qui débarquent à Noël au Garden. Ça s'est soldé par une défaite, une courte défaite, mais une défaite quand même. Et puis derrière, un déplacement
Ah,
texan,
là, là,
un road
là.
trip, trois matchs dans le Texas. Il était temps de reprendre des victoires, parce que voilà, après 8 victoires consécutives, c'était des défaites qui arrivaient. Et là, voilà, un match qui tendait, une victoire qui était au bout des mains d'Enix, à quelques
À
secondes de la fin,
29 secondes près.
c'était bon. Moi qui étais en train de faire les petits résumés de match, j'étais en train de finir ça en mode bon bah c'est bon, Luka il a toujours pas gagné contre les Knicks à domicile. Et ben merde,
Ouais,
ça s'est pas passé comme prévu.
c'est
Alors bon,
ça.
j'ai vu des images ressortir de Reggie Miller, oublié, hein, ok, il y a une fin de match abracadabrantesque à Dallas, mais c'est pas des playoffs. Hein,
Non.
et puis les Knicks perdent le match plus que les Mavs le gagnent, parce qu'ils ont vraiment toutes les possessions pour le clore. Hein. Ça se joue
Là,
vraiment sur un rebond improbable, quoi, en
Oui,
fait.
et puis là, ouais, la dernière possession, elle est incroyable, quoi. Je veux dire, ce ballon touche des mains, trois mains de nos gars, et puis par magie, ben voilà, hein, par magie, elle tombe dans les mains de celui qu'on veut pas.
Et qui nous met le dagger, quoi, qui
Et
nous crucifie.
qui tire one again, et bon.
Bon, on va revenir un peu dessus tout à l'heure, mais voilà, c'était le premier match aussi d'absence de Jalen Brunson, lui qui aurait pu revenir à Dallas, son ancien club, hein, le fameux qui nous coûte un tour de draft en tempering. Hein. mais voilà, donc première absence et aussi une absence sur blessure sur ce tout début de match de RJ Barrett. Donc voilà, la rotation de 9 joueurs qui a été mise en place par Tom Thibodeau, qui était signe de succès il y a peu de temps, bah, était plutôt là dans ses derniers retranchements et au bout du bout, eh ben, a concédé une défaite à Dallas. Derrière, déplacement toujours dans le Texas à San Antonio, une des plus mauvaises équipes en termes de bilan de la Ligue et de la Conférence Ouest. Donc il y avait espoir de pouvoir se rattraper, de pouvoir se reprendre. Eh ben non, les Knicks n'ont pas su mettre la main sur le... prendre le contrôle, le tempo du match. Et tout le long du match, ils ont couru après le score. Ils n'ont jamais pu réellement s'accrocher pour repasser devant et prendre la victoire. Donc encore une défaite frustrante. Ça faisait beaucoup là sur cette fin d'année. Et puis, bah, le match de la Saint-Sylvestre, le match pour passer de 2022 à 2023. Alors nous, en France, dans l'Hexagone, on était passé en 2023. Nos amis new-yorkais à Big Apple, ils étaient passés en 2023. À Houston, pas encore. La magie des fuseaux horaires. Mais du coup, les Knicks ont réussi quand même à s'imposer. Donc de plus 20 points dans un match plutôt brouillon des deux équipes. Et voilà comment les Knicks terminent l'année 2022, commencent l'année 2023 sur un bilan de 19-18. Premier bilan positif depuis 10 ans. Ça a été compliqué cette quinzaine. Ça a été compliqué. Seb, qu'est-ce que tu veux retenir ? Qu'est-ce qui mérite de revenir un peu plus en détail sur ces 7 matchs ? Donc un bilan de 2-5. C'est pas du tout ce qu'on avait pronostiqué. Hein. Les deux extrémités, le début de la semaine, la fin de la semaine, enfin la fin de la période, la quinzaine.
J'avais dit 5-2,
en victoire, mais autrement.
J'avais dit 5-2, mais pas comme ça.
Dur Noël.
Ouais. Non, retour sur Terre, quoi. Retour sur Terre. Voilà, quoi. Bon, on gagne ce match contre Golden State qui, d'ailleurs, en aparté, a pas fait le voyage pour rien dans la ville de New York parce que le lendemain, ils se font atomiser par les Nets. Quoi qu'ils repartent de New York avec 300 points dans la valise. Mais, moi, j'ai trouvé qu'à partir du moment où on a eu la blessure de Jalen Brunson, l'équipe n'a plus été la même. Pour moi, là, on a atteint un peu les limites de la rotation à 9. C'est-à-dire que on épuise nos gars. On n'a pas de ressources. Tom Thibodeau n'a pas de ressources. En tout cas, il ne s'en donne pas les moyens d'avoir des ressources. C'est-à-dire qu'on débute bien les matchs, c'est toujours comme ça, on débute bien les matchs. Première mi-temps, elles sont toujours de bonne facture. On arrive à tenir les mecs, je veux dire, la première mi-temps, par exemple, contre Philadelphie, on les tient, un Robinson fait un super match. Et puis on est rattrapé par la fatigue en deuxième mi-temps. Les équipes en face nous usent. Et le problème, c'est que on n'a peut-être pas assez de talent sur le banc, quoi. Et Thibodeau va donner des gros temps de jeu à ses hommes forts et moins faire tourner. Tu t'imagines qu'il y a des, il y a eu des matchs, alors je ne pourrais pas te citer lesquels, mais je crois que c'est contre...
Il y a forcément le match avec la prolongation à Dallas.
Je crois qu'il y a contre San Antonio où le banc, je crois que... Allez, le plus, je crois que c'est 10 ou 12 minutes du banc, quoi. C'est rien. On a des mecs qui jouent 40 minutes, 43 minutes. C'est monstrueux. Et donc, forcément, tu ne peux pas leur demander... quand j'ai lu au match de Dallas, oui, c'est une faute professionnelle, machin. Mais on ne peut pas leur en vouloir aux joueurs. Ils font un super
surtout que
match.
Le match de Dallas, New York le maîtrise pendant 47 minutes.
Ils font un super match.
Ils sont à bout de jus. Et c'est un match qui est quand même, comment dire, doublement compliqué. Parce que... D'entrée de jeu, tu dois faire sans Jalen Brunson, qui est clairement le métronome de cette équipe.
Et RJ qui se blesse.
Donc du coup, tu sais que tu commences déjà avec un Emmanuel Quickley, un IQ qui n'a pas starté encore en ce début de saison, donc il se retrouve un peu dans un nouveau rôle. Et,
même s'il a du gros temps de jeu, lui aussi, quand même. Mais en sortie de banc, c'est quand même...
Et derrière, du coup, tu vas jouer avec du McBride de beaucoup. Avec du Quentin Grimes aussi beaucoup.
On jouait trop petit. Contre Dallas,
mais un Julius qui a porté l'équipe. Attention, tout du long. Et on sait que on le sait depuis deux saisons que Julius, il peut porter l'équipe pendant une bonne partie d'un match, mais quand il va falloir finir le match, c'est pas sur lui qu'on va compter. Mmh. C'est rarement sur lui, et il a pas les épaules pour ça, et c'est en ça où Jalen Brunson a été signé, et c'est en ça où Jalen Brunson le soulage, en ça où Jalen Brunson sait mettre des paniers aussi, quand mmh. il faut, quand ça commence à devenir plus compliqué, que les matchs sont dans le dur, tout simplement. Quand les possessions se jouent, et qu'elles se gagnent sur des détails. Et là, bah sur le match de Dallas, ça a forcément manqué. Et oui, tu dis, on manque de talent. Un Miles McBride, il a beau être très bon dans la mission qu'on lui a donnée, qu'on lui a confiée d'apporter de la défense, ça s'est vu, et dans la série de 8 victoires qu'il y a eu il y a quelques temps, c'est clairement un des facteurs qui a aidé à élever le niveau défensif de l'équipe. Par contre, on sait que c'est pas ça, c'est pas son truc de mettre des points, quoi.
Non.
C'est très compliqué, les shoots de McBride, ils sont ouverts, il les prend, il a raison de les prendre. Le problème, c'est qu'il en rentre pas un, ou très peu, quoi. Donc ouais. Ça devient compliqué quand du coup, l'attaque... L'attaque, elle est stigmatisée, elle est réduite à Julius Randle qui va faire des prises, qui va se prendre des prises à deux, faire des iso. C'est compliqué, quoi. Et McBride ou Grimes, pardon, Grimes a de l'adresse qui va alterner. Hein. Contre Dallas, il nous fait un super match, formidable. On se dit bon, bah du coup, ouais. Tu vas te rattraper, tu vas continuer, je veux dire, à San Antonio. Bah et là, il passe complètement au travers. Il fait 1 sur 10. C'est pas Quentin Grimes, c'est pas un numéro 2, c'est pas une option 2, c'est un bon 3&D, un bon joueur de complément qui va pouvoir avoir des shoots, mais faut pas en attendre d'être un lieutenant, et même un lieutenant d'un Julius Randle, c'est peut-être trop lui demander parce qu'il aura pas la régularité malheureusement aujourd'hui dans cette carrière, ce début de carrière NBA, pour pouvoir être une option numéro 2 fiable en l'absence de R.J. Barrett, en l'absence de Jalen Brunson, quoi. Sur le Big Three qui a plutôt bien fonctionné pendant la série de victoires. Bah, quand on nous retrouve avec plus qu'un tiers du Big Three, c'est forcément plus compliqué, même si on a un Julius Randle qui est capable de finir des matchs à 40 pions, quoi. Donc, ouais, des matchs, des défaites frustrantes, des fins de matchs frustrantes. Le match à Dallas, effectivement, on en rigole. Enfin, on en rigole, on a pas rigolé longtemps, en fait, quand on a vu ce qui s'est passé, parce que forcément, la journée qui a suivi, Luka avec son triple-double à 60 points, bah ouais, fallait que ça tombe sur les Knicks. Mais ce qu'on oublie, c'est de dire que bah, New York a maîtrisé le match pendant toute la durée du match, et que ça se joue à la fin sur une remontada de folie, quoi. Avec une équipe qui est diminuée, oui, un temps de jeu énorme. Le problème, c'est que t'avais sorti des Evan Fournier qui est depuis un moment. Evan, on ne l'a pas dit, est revenu dans la rotation là, sur les deux derniers matchs. Il a été plutôt bon, il est resté pro, il est resté prêt, et il savait que la NBA, c'était ça aussi, que peut-être qu'à un moment, il y aurait une ouverture, une opportunité. Donc bravo à lui, et tant mieux qu'il puisse retrouver un peu de temps de jeu, ça fait plaisir de le revoir un peu sourire sur le terrain. Et en plus, il est bon maintenant dans son registre. On sait que ce n'est pas un gros défenseur, on sait que ce n'est pas le niveau de défense d'un Quentin Grimes, mais il peut nous mettre des points quand il en a besoin, et son shoot est là, donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, effectivement, avoir raccourci la rotation, c'est que des joueurs sont plus prêts et tu vas pas sortir un joueur. Tiens, Cam Reddish, ah bah mince, j'avais pas prêt que tu joues. Bon bah, je vais te faire jouer 2 minutes, quoi. C'est compliqué aussi. On sait que Thibodeau, c'est pas sa façon de faire, quoi. Mais on tire sur la corde et Jalen Brunson, on voit quand il n'est pas là qu'il est très important dans le jeu, quoi.
Non, mais
son absence fait relativiser encore plus sa valeur et son utilité dans le jeu, quoi.
Non, mais tu vois, tu parlais d'Evan, ok, bon, c'est cool, ils sont revenus. Mais dans un match contre Dallas.
C'est passager, hein.
C'est passager, oui. Enfin, il joue quoi? Il joue 17 minutes, un truc comme ça, je crois.
Son temps de jeu est intéressant pour un joueur en sortie de banc. Ce que je veux dire, c'est
non,
que
il joue
quand
pas contre Dallas,
les retours
il joue pas
vont.
Contre Dallas. Il joue pas contre Dallas, il joue contre
San Antonio. Il revient à San Antonio et Houston. Ouais.
Mais tu vois, contre Dallas, par exemple. On a joué trop petit contre eux. Et il aurait fallu. Bon, enfin. Après, voilà, je sais que de toute façon, et c'est ce que beaucoup dans la fanbase pensent, enfin, on est tous d'accord là-dessus que pour Reddish, c'est fini. Mais, enfin, moi, j'arrive toujours pas à piger ce move, en fait. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre ce move. Pourquoi on a fait venir ce gars-là? Pourquoi est-ce qu'on a dépensé.
Pour Cam, tu voulais dire. Pour Cam, ok.
Pour Cam Reddish, ouais. Je comprends ouais. Toujours pas ce move qu'on a fait l'année dernière. On fait venir ce gars-là, on dépense un tour de draft pour faire venir ce type. Et finalement, enfin, on fait venir ce gars-là, mais pour chauffer le banc. Moi, je ne comprends toujours pas.
On a testé, quoi. Il était là en leasing, quoi.
Ouais, mais enfin, Mais enfin, je suis pas son plus grand fan. Mais j'estime que quand tu fais un mouvement, que tu donnes un tour de draft pour un premier tour, que tu vas chercher un type dans une équipe, donc tu donnes un mec lambda, voilà, bon là c'était Nox, bon. Tu donnes un random, tu donnes un premier tour, c'est ça qui était le plus important. Donc c'est que quand même c'est quelqu'un que tu que t'estimes qui va être important ou en tout cas qui va avoir un rôle à jouer dans ton effectif.
Ah, et tu crois que tu fais un pari, ouais.
Ouais, mais tu fais un pari, mais. Enfin, j'allais dire un gros mot, donc je veux. Mais mince, quoi. Je veux dire, à un moment donné.
Mince alors.
tu peux pas discuter avec ton coach et lui dire t'en penses quoi de ce gars-là? On le prend ou pas? On le fait venir? J'ai une opportunité là, j'ai une fenêtre, on peut le prendre. Ça t'intéresse ou pas? Est-ce que tu souhaites le faire jouer? Comment tu souhaites le faire jouer? Mais c'est pas possible, enfin je veux dire.
Moi la façon dont je vois les choses, c'est que effectivement ils se sont débarrassés de Kevin Knox parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas le prolonger, ils voulaient pas le voir partir pour rien, et bon voilà, t'attaches un tour de draft aussi, tu récupères un autre joueur.
Personne en aurait voulu de Kevin Knox, de toute façon, il serait parti pour rien, quoi qu'il arrive. Justement là on a payé pour qu'il parte.
Mais le pire c'est qu'on pourrait très bien recommencer.
Il avait zéro cote, Knox, ça servait à rien, enfin.
On pourrait très bien recommencer parce que justement la Cam Reddish qui est plus trop utilisée, Evan Fournier pareil,
oui,
même si là quand j'ai dit c'est passager, voilà, on l'a fait revenir. Je pensais moi que Cam Reddish aurait eu peut-être sa chance de revenir un peu dans la rotation là sur, parce qu'il y avait des blessés, notamment sur le match de San Antonio, parce que voilà, c'était le profil qu'il fallait peut-être. Je dis pas que ça allait être le game changer, qu'il allait stopper la défense, enfin l'attaque des Spurs, mais on aurait pu s'opposer parce qu'on était sur une confrontation avec des ailiers et on a vu que McBride. Deuce, bah, il n'a pas tenu.
Mais
il a
c'est
pas
le seul ailier qu'on a dans l'équipe. C'est le seul ailier de métier qu'on a dans l'équipe.
Voilà, il joue 2-3. Toi, tu le vois pourquoi pas en 4. Ouais. J'ai un peu du mal là-dessus. Mais en tout cas, il a cette polyvalence qui fait que.
Il est athlétique. Il est physique.
Pu essayer, quoi.
Il est grand. Ouais. McBride, je l'aime beaucoup. Il est trop petit. Et le problème, c'est que là, Grimes, il jouait même des fois 1 à la fac. C'est un 2 qui peut même dépanner en 1 parce qu'il a quand même ce maniement de ballon. Mais je veux dire, Cam Reddish, c'est le seul ailier de métier qu'on a dans cette équipe. On ne l'utilise pas. On a tradé pour lui. On ne l'utilise pas. Et là maintenant, on va à nouveau payer pour qu'il parte. C'est-à-dire qu'on va sûrement devoir mettre un tour de draft, ouais, pour aller chercher un type. Et on va devoir mettre un package pour qu'il parte. Je trouve ça hallucinant.
Après, il est injury prone, le garçon. Donc là, le mettre sur le banc, c'est éviter qu'il se blesse pour pouvoir l'extirper. Voilà.
Il fait un début de saison. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faisait un début de saison correct. Voilà, il s'est blessé, ouais, quelques jours. Il revient. T'es sur le banc. Bon, ok, Grimes. De toute façon, tout le monde savait que c'était Grimes qui allait avoir le poste. Grimes, donc, prend la place. Lui, donc, départ sur le banc. Un match sur le banc. Un match, c'est fini. Voilà, je fais un... Alors, soit il a dit des mots à Thibodeau qui est lui, ça lui a pas plu.
Je doute.
Et... On sait pas ce qui s'est... Enfin, on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Mais
il y a eu cette rumeur à un moment qui est revenue, comme quoi il aurait demandé son trade, et puis après il a démenti. Bon, c'était déjà arrivé cet été.
Ouais,
ceci dit, la situation fait que si le gars demande son trade, c'est tout à fait compréhensible. Il joue pas ou il est pas dans les plans. Donc...
Moi, je
pense que voilà, le coach... Alors, est-ce qu'il se trame des choses en coulisses? Et que bah du coup le coach il dit bah attendez, moi j'attends que Léon Rose il me trouve ce trade, et en attendant on veut surtout pas qu'il se blesse parce qu'il a tendance à se blesser, et si c'est pour qu'il se blesse et qu'on puisse pas le trader, voilà, donc il y a peut-être un peu de ça,
mais ça Thibodeau il s'en fout de ça, lui ce qu'il veut c'est
il s'en fout, on sait pas trop comment ça travaille entre le front office et le coaching staff.
Thibodeau doit se plier aux exigences du front office, et par contre le front office n'écoute pas le coaching staff.
Peut-être.
Donc ça marche dans un sens et pas dans l'autre.
Peut-être. Je sais pas, on n'est pas des insiders, mais je me pose cette question parce que quand on regarde les trois joueurs qui ont été mis au bout du banc, Derrick Rose, Evan Fournier et Cam Reddish, il y en a qu'un qui joue plus.
Ils ont tous rejoué sans faire.
Derrick Rose a trouvé un peu de temps de jeu, même s'il est pas, il est pas hyper bon aussi en ce moment, faut le dire, et ça peut se comprendre parce qu'il a peut-être pas non plus le rythme et tout. Evan Fournier est revenu. Alors est-ce que ça veut dire aussi que Evan Fournier, on espérait le trade et on n'arrive pas à le trade, donc bon, bah, quitte à l'avoir, autant le faire jouer, à voir.
Mais moi, spoiler alert, hein. Moi je te le dis, Evan Fournier, ok, là il est revenu, dès que Jalen Brunson et R.J. Barrett sont revenus, il retourne sur le banc.
Ah oui.
Il retourne sur le banc, tout le monde. Hein.
Est-ce que le 10 février, pas après la trade deadline, est-ce que Evan Fournier est toujours un X?
Ouais.
Moi, je pense que oui. C'est pas évident. Oui. Ouais. Autant Cam Reddish, je dirais non. Derrick Rose, je sais pas le faire jouer. Derrick Rose, ça montre qu'il est encore en rythme.
Oui, surtout qu'en plus, il a ce petit rôle d'encadrant auprès de Grimes et McBride. Donc, il a quand même ce petit rôle d'encadrant que n'a pas les deux autres. Je pense que Evan, ça va être une situation qui sera réglée cet été. Et Cam, ça va être un trade dégueu. On va aller chercher un mec qu'on va couper derrière. Enfin, ça va être un truc ubuesque. Hein. On va voir le trade et on va dire, mais what the fuck, c'est quoi cette histoire?
Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça?
Qu'est-ce qu'on fait? Et là, 24 heures après, t'as un tweet de Wash qui dit « Ah ben, on l'a coupé, le mec qu'on a récupéré. » Ah d'accord.
Donc commandez pas trop vite vos maillots. Hein. Il y a des chances que voilà, des joueurs ne fassent objet de certains moves, mais ne fassent pas vraiment partie de l'équipe après.
Mais après, pour parler de ceux qui sont présents, ils ont tous été bons. Quand on regarde les défaites, on perd de rien.
Il y en a un qui m'a fâché, c'était Mitchell Robinson sur le match contre les Spurs où je l'ai trouvé transparent. Et on perd ce match parce que la lutte au rebond est pas là, parce que la protection de cercle est pas là non plus. Et donc sans défense, on a fait un jeu d'attaque et en faisant le jeu d'attaque, on n'arrive pas à gagner.
Mais ce match est spécial contre les Spurs parce que c'est vraiment un match post-traumatique de Dallas. Tu viens de perdre un match contre Dallas dans un contexte très particulier où tu as Doncic qui bat le record de points de Nowitzki, qui tape un record avec 20 rebonds, 15 ou 16 passes. Il fait un truc, je crois.
Il y a des traumatismes.
Il y a eu un traumatisme. D'ailleurs, c'est pour ça que Grimes, pareil, dans ce match, ça a été son pire match depuis le début de la saison. Et regarde, le match contre Houston, on l'a retrouvé. Plus dur en défense, plus...
Il était chez lui.
Non, mais certes, mais je veux dire, ils ont eu le temps de digérer. Le match contre San Antonio arrive après le match contre Dallas, qu'on perd dans des situations particulières. Mais quand on regarde la série de défaites, on perd de 7 points contre Toronto, on perd de 1 point contre Chicago, dans un match qui laisse un goût amer dans la bouche parce que
les lancers loupés, manque de lucidité, d'énergie en fin de match. Quoi.
Les lancers loupés, et puis tu le sais, que quand il y a la remise en jeu, tu sais que le ballon va finir dans les mains de DeRozan, tu sais qu'il va être à mid-range, tu sais qu'il va le mettre. Mais ça, tu le sais, c'est écrit. C'est comme le Titanic, tu sais qu'il coule à la fin. Là, tu sais que le ballon, il va arriver dans les mains de DeRozan, qui va le marquer, qui va nous assassiner. Bref. Donc ensuite, on perd de 7 points contre Philadelphie. On perd de 5 en prolongation contre Dallas. On perd de 7 contre San Antonio. On prend pas de blowout. Alors, on a encaissé plus de points que sur les matchs précédents. Là, la défense était quand même. On a scoré, mais on a quand même encaissé plus de points que dans la série de victoires. La défense était quand même là à pointer du doigt parce qu'on a quand même été moins présent. On l'a retrouvé, mais face à une équipe, what the fuck de Houston. C'est un peu Kumbaya là-bas, quoi. Mais après, derrière, on n'a pas mal joué. Dans cette série de défaites, c'est ça qui est rageant. C'est qu'on n'a pas mal joué. Je veux dire que quand t'as un Julius Randle qui tourne à 30 points sur cette série, hein, donc sur la série depuis qu'on n'a pas été là, le mec, il a tourné à 30 points, 12 rebonds, 4 passes. Je veux dire, à 51% au shoot, à 40% à 3 points. Et on va me dire encore une fois, non mais Randle, il faut qu'il comprenne que le mec, c'est une troisième option. Il y a des gens qui pensent encore ça. Randle, il faut qu'ils comprennent que c'est une troisième option. Randle, il prend l'équipe, il la met sur son dos. Et moi, je veux bien qu'on déteste Randle.
C'est pas le jeu le plus beau qu'on voit parce que c'est toujours en isolation, mais en ce moment, c'est lui qui porte l'équipe.
Mais c'est pas le plus dégueulasse. C'est lui qui porte l'équipe. On retrouve le Randle de 2020. C'est le mec qui prend de bons shoots. Il prend des bons shoots, il prend ses responsabilités. Il va pas prendre tout le temps, il va faire jouer les copains à côté. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on déteste Randle, mais on peut aussi être un minimum objectif, en se disant, bah tiens, mais Randle, c'est vrai que quand même le type, bah, actuellement, c'est lui qui nous fait gagner. On a un Grimes qui a été bon, hein, un Grimes qui tourne sur cette série, là, qui tourne à 16 points de moyenne. 41
malgré son match à San Antonio, c'est ça qui est dommage, mais autrement, il a été bon. Ouais. Ouais.
Voilà, 35%, ou quasiment 36% à 3 points, c'est pas mal. On a un Quickly qui est très bon sur cette série, 20 points, le mec qui tourne à 20 points de moyenne. 5 passes, 3 rebonds, avec de beaux pourcentages, 40% à 3 points.
Et surtout, y a eu des matchs où il y a eu des bonnes mi-temps, des moins bonnes mi-temps, mais c'est surtout au niveau des pertes de balles. Il perd très peu de ballons, malgré qu'il ait un jeu un peu à risque, un peu faufolé parfois.
Il perd un tout petit peu plus d'un ballon par match.
Donc c'est vrai, quelqu'un qui joue en poste 1, et après on va passer à la suite, mais quelqu'un qui joue au poste 1 et qui fait de la passe, qui score et qui en plus perd très peu de ballon.
Il y a un ratio là-dessus dans les stats avancées qui mesure le nombre de ballons de passes par rapport au nombre de ballons perdus. Là j'ai plus la stat en tête, mais ce que je peux dire c'est que quand tu fais 5 passes et que tu perds un ballon, c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Brunson, tu vois, c'est à peu près la même chose. Brunson, bon, sur cette série, on l'a un peu moins vu sur les 3 derniers matchs, forcément, il était pas là, il était absent, mais il tournait à 16 points, 9 passes et 3 rebonds. Alors, le pourcentage à 3 est un peu pourri, hein. 31%, c'est pas top. 40% au tir, c'est pas ouf, surtout qu'on sait qu'en général, il va quand même finir sur le cercle et c'est un peu un kamikaze quoi là-dessus. Même en défense, c'est un kamikaze quand il pose ses écrans. Mais voilà, on a tous nos joueurs, franchement, qui sont là. RJ, 21, quasiment 22 points. 22 points, 5 rebonds, 4 passes. C'est excellent. Il a retrouvé des standards. 54% à 3 points. 54% à 3 points sur 5 matchs. C'est monstrueux.
C'est voilà, il y a eu des absences qui ont été pénalisantes. On espère qu'ils vont revenir assez vite, mais du coup il va falloir qu'on regarde ce qui va venir aussi dans le programme parce qu'il y a des matchs qui vont nous attendre qui vont être plutôt sympathiques. Donc tout ça appartient au passé. Tout ça c'était 2022. Maintenant on est en 2023.
On a lancé une série de victoires.
On a une victoire. il faut qu'on enchaîne. Hein. Faut qu'on enchaîne. Et donc on va enchaîner et on va enchaîner tellement qu'on va enchaîner sur la deuxième partie de l'émission, sur le programme de la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Le programme de la semaine qui arrive. Alors, la première semaine 2023 d'Enix va se préparer avec trois matchs, une petite semaine, une petite reprise. On verra si c'est une semaine victorieuse ou pas. 2 matchs à domicile, 1 match à l'extérieur. Pour commencer, et pas plus tard que ce lundi 21h.
21h
Pourquoi pas, hein, lundi 21h, c'est pas le Sunday Night Live. on n'aura pas une viewing party, mais voilà, peut-être que les Knicks joueront mieux le lundi midi pour eux que le dimanche midi. Donc profitez-en, les Suns qui arrivent de l'Arizona à Manhattan, privé de Devin Booker, toujours privé de Cam Johnson, ça fait un petit moment, mais il y aura Chris Paul cette fois-ci, donc à voir si les Knicks vont prendre une revanche. Ils n'avaient pas vraiment fait bonne figure là-bas dans l'Arizona, à voir si ça se passe mieux, à voir si Jalen Brunson est de retour. Il est toujours listé questionable, il a été touché à la hanche. Bon, on a vu que les Knicks arrivaient quand même à gagner face à Houston sans Jalen Brunson. Ça serait pas mal tout de même qu'il soit de retour. Son absence a commencé à dater, à durer, je veux dire. Et puis RJ Barrett, on savait qu'il fallait compter une bonne semaine, donc il n'est pas encore question d'un retour. Un peu de renfort de Brunson, ça ferait pas de mal. Quoi.
Il portait une sorte d'attelle là au doigt. Là.
Au doigt, ouais. Alors c'est sa main droite, il est gaucher. Bon, dommage.
Mais elle est bizarre sa blessure là, parce que soi-disant un coup d'oncle de Doncic, Je sais pas, il lui a ouvert le doigt, enfin, c'est bizarre.
Ouais, donc c'est visiblement ça devait être assez ouvert pour que il ait un point de suture, sûrement pour qu'il puisse pas être en capacité de jouer.
Ah bah,
c'est pas sa main forte. Mais bon, bah du coup, ça permet d'avoir un peu de repos sur ces joueurs-là. Derrière, il y aura une revanche aussi à prendre, et cette fois-ci au Garden avec la réception des Spurs dans la
faute,
nuit de mercredi à jeudi. Oui, là, il faut le gagner parce
pas
que.
De faute.
Et au moins, on a, on va dire, le premier match encore en tête, c'est assez frais, sur ce qu'il faut pas faire. Il faut batailler au rebond, il faut freiner les ailiers, Keldon Johnson, entre autres.
Langford.
Ce match-là, ça doit se gagner, quoi.
Ce mec, c'était un bust à Boston quand ils l'ont drafté. Et ce gars-là, il nous score sur la tête.
Ah, c'est Sonics.
Ça n'a pas de sens.
Ah, il y en a toujours un. Et puis, il y en a toujours un qui aime bien jouer au Garden. Donc, bon, on verra. Mais en tout cas, oui, ça doit
être... Mais Keldon Johnson, il est bon, revanche. Lui. Hein. C'est un sacré joueur. Voilà.
Mais on n'a pas su freiner. Et il va falloir trouver des solutions par rapport à ça. Puisque ton jeu, Mitch. Et puis peut-être en redécalant Quentin Grimes à sa place plutôt qu'une paire, un bac courte avec McBride. À voir. Et puis la semaine qui se terminera dans la nuit de vendredi à samedi avec un déplacement au Canada, à Toronto. Pareil, il y a une revanche à prendre. Est-ce que Pascal Siakam va encore nous mettre 50 points sur la tête?
Est-ce qu'il va à nouveau avoir 36 calls?
Ah bah il sera chez lui, donc à voir. Est-ce que RJ Barrett va revenir, va faire un match, un homecoming à Toronto, parce qu'il est originaire de la banlieue de Toronto. À voir, mais voilà, en tout cas, les Toronto Raptors qui sont plutôt derrière nous au niveau du classement de la conférence Est, j'aimerais bien qu'ils restent derrière nous, et ça serait une bonne idée de prendre une petite revanche. Bon, 3 matchs cette semaine, traditionnel jeu des pronos, on n'a pas été bon sur la fin d'année 2022. Est-ce qu'on va être meilleur sur cette fin? Tu te lances, je me lance. Qui c'est qui se lance?
Vas-y, honneur.
Vas-y, allez, 3-0. Allez, je suis comme ça, début d'année, on blague pas. Il faut prendre ce match des Suns parce que Devin Booker est pas là. Ok, Chris Paul, mais bon, il y a toujours une belle équipe aux Phoenix Suns. Mais, retour à la maison. Je dis pas que le succès face aux Rockets c'est tout de suite gage de sécurité dans ce match-là, mais voilà, il va falloir essayer de bien démarrer, bien continuer cette série de victoires, une victoire pour le moment. Ça va dépendre grandement du retour de Jalen Brunson. J'espère qu'il est de retour. Peut-être que ce voyage au Texas, on l'a vu s'échauffer, hein, il est questionable, c'est pas comme s'il était out. Est-ce qu'il avait besoin de retrouver un petit peu de repos? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la rotation de 9 joueurs, mais Jalen Brunson était aussi mis à rude épreuve. Parce qu'il était utilisé longtemps, il prenait des chocs aussi.
Ouais.
Il était moins fringant sur les derniers matchs avant de s'arrêter. Donc là, espérons que ça lui ait redonné un petit peu de boost. Et j'aimerais bien le revoir quand même à l'œuvre là pour cette reprise. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir et que du coup, ça va être un retour victorieux. On va un peu retrouver nos bases, nos bases en termes d'équilibre. Mais ouais, les Spurs, non. Déjà, j'aime pas perdre contre les Spurs, ça, de 1. Et alors, perdre 2 fois contre les Spurs, ça serait vraiment une faute. Donc là, il faut que les Knicks se ressaisissent. Et puis, à Toronto, bon, voilà. En fait, j'ai dit 3-0. Si je devais donner un 2-1, ça serait plutôt une défaite à Toronto. Mais je vais maintenir mon 3-0. Toronto, ça va être compliqué. Parce que ça a été compliqué la première fois. Mais voilà, si on retrouve un petit peu de renfort, si les joueurs sont... sont un peu plus frais pour RJ, pour JB. Voilà, avec un Big 3, il y a peut-être moyen de prendre une revanche là où on s'était fait avoir sur le match aller, on va dire. Donc, ouais, 3-0 pour moi. Allez.
Bah, écoute, et toi, Seb? Non, moi, je pense un 2-1. Alors, un 2-1, mais qui peut se transformer en 3-0 comme un peu suivant. Tout dépend si on récupère les mecs. Et tout dépend si Siakam n'a pas autant de lancers francs que l'entièreté de l'équipe d'Enix. Parce que ça, je t'avouerai que ça, je l'ai encore à travers la gorge. Ce match-là, comme le match contre Dallas, où tu as un joueur qui a autant de lancers francs qu'une équipe entière. Je trouve ça assez énorme. Les types, ils ont eu 20 lancers francs chacun. C'est fabuleux.
Après, les Knicks ne perdent pas forcément les matchs sur ça, mais on note quand même des...
Il y a
des séquences où il y a des erreurs d'arbitre.
Il y a eu des calls étonnants. Hein. Donc, bon, forcément, si le mec il a déjà 20 lancers francs, bon, il part déjà avec un petit avantage. Moi, je pense que Phoenix, on les bat. En plus, ils sont actuellement, ils sont pas au top. Ils sont voilà, sur leurs 5 derniers matchs, 4 défaites, une victoire. Tu me diras non plus, on n'est pas au top. Mais nous, on a fini sur une victoire. Donc, on a une dynamique qui veut peut-être se lancer. Eux, ils sont sur 2 défaites consécutives. Donc, il y a une dynamique qui s'est mise en place chez eux. Donc, moi, je pense que ce match-là, on doit le prendre. San Antonio, no joke. No joke, San Antonio. Stop. T'as mort. C'est OK. D'accord. Langford, fabuleux. Le type... voilà, c'était, il a fait le match de sa vie, de
c'était
sa carrière.
Le coup d'un soir, hein. C'était le coup d'un
voilà,
soir.
Voilà, c'était le coup d'un
il
soir.
Il faut pas oublier qu'ils ont un Victor Wembanyama à aller chercher. Donc arrêtez de venir gagner contre les Knicks. Voilà,
regardez Houston.
C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant de perdre à New York.
Regardez vos copains à côté. Ils
vous ne serez pas accusé de tanking. Hein. Vous aurez gagné le premier match, mais celui-là, on en a besoin. Hein.
Voilà, Houston a pris une danse. Prenez la vôtre au Garden. Ça fera plaisir à tout le monde. Donc, ouais, non, là, je pense que ça peut faire voilà, un 20 points d'avance. C'est chouette. Mais tout ça, c'est conditionné en fait, au retour de nos gars. Moi, je pense que Brunson va revenir dès le prochain match. Je pense qu'il est là des Phoenix. En même temps, voilà, on joue dans moins de 10 heures, on joue dans 8 heures. Donc,
on va le savoir. Et...
Je pense que quand la vidéo sera là ce soir, on le saura s'il joue ou pas, je pense. Mais moi, je pense que voilà, ce match, San Antonio, no joke, on le prend. Et comme je dis, Toronto, si on a le retour d'RG, mais ça va être dur. Ça va être dur là-bas. Ça va être dur là-bas parce que déjà que. D'accord, je suis peut-être une fixette là-dessus, mais déjà que bon, Siakam a eu les arbitres avec lui sur le match aller, je vois pas pourquoi est-ce que d'un coup il aurait pas les appels au match retour. Mais
après, c'était un peu une victoire du désespoir parce qu'ils étaient dans une très mauvaise série. Les Raptors, ils sont repris depuis. Oui. Tant mieux pour eux. Ils seront peut-être un peu moins fringants, donc
ils sont sur un 3-2 sur leurs 5 derniers matchs. D'ailleurs, ils ont gagné leur dernier match contre les Phoenix Suns. Ils ont gagné 9 points, donc c'est quand même une belle victoire, hein, une victoire importante pour eux. Donc voilà, ils ont quand même une belle équipe. Moi, je comprends pas que ça marche pas. Ils ont quand même une belle équipe. Donc ça va remonter.
Le rookie, Scotty Barnes, qui est un peu moins bon cette saison. Hein. C'est toujours compliqué de confirmer.
Mais je pense que ça va remonter.
Ce sera lui le bon joueur, on va voir. Hein, mais...
Je pense que ça va remonter parce que tu as quand même Atlanta qui est en train de se casser la binette. Tu as Washington. Oh. T'as Washington qui sont sur 5 victoires consécutives. Mais bon, à un moment donné, ça aussi...
C'est trop pour eux.
Je pense qu'à un moment donné, ça aussi, ça va glisser. Donc,
t'imagines pas la paire Victoire Maniama Kristaps Porzingis la saison prochaine ou
Ah, les ficello. Ouais, mais ça serait... Non. Ils ont trop de victoires maintenant pour entrer dans la course au tanking, quoi. Je pense que Détroit et Charlotte sont bien en place. Ils ont bien compris le truc. En plus, Détroit, ils se bastonnent. Leurs meilleurs joueurs, ils prennent des. Kylian Hayes, il prend des matchs de suspension. Avec le petit coup de là derrière la nuque. Mais non, je pense que ce match, on va le perdre. Je dis un 2-1. Mais encore une fois, pas de.
Ce match, pas de blowout.
Ça va pas finir en blowout. Mais là, on a besoin de tout le monde. On a besoin que. Voilà. Nos joueurs, ils savent répondre présent. C'est des joueurs sérieux. C'est des joueurs sérieux et appliqués, je veux dire. Ils se voient pas plus beaux que ce qu'ils sont. On en avait parlé. Ils connaissent leur rôle.
Même un Julius qui est plutôt bon, qui est plutôt rayonnant en ce moment.
Mais le souci, c'est que on les essore jusqu'à la dernière goutte. Et c'est toujours pareil. Donc, ce match à Toronto, ils peuvent très bien le prendre. Mais faut. Le problème, c'est que si ça s'éternise, nos joueurs ils vont se fatiguer parce qu'avec la rotation à 9, on va se crever. Donc,
à voir si y a des retours. À voir si Evan Fournier est plus ou moins maintenu dans la rotation. Si Derrick Rose a quelques bouts de minutes, histoire de rééquilibrer.
Tu connais Thibodeau, hein. Oui, tu connais sa mentalité, hein. Tu sais comment il est. Hein. Lui, il mourra avec ses idées. Donc là, ils sont là, les mecs. Bravo à eux, super. Ouais. Comme il dit avec sa grosse voix, je souligne leur professionnalisme, bravo Evan. Mais bon, maintenant, tu retournes sur le banc, par contre. Hein. Donc,
tout va dépendre des retours ou pas. Tout va on dépendre des retours ou pas.
Oui, mais ils reviendront. Ce n'est pas des grosses blessures. Donc, ils vont revenir.
Il y a un joueur, justement. Bon, là, sur nos pronostics, on les a. Il y a un joueur dont on parle plus ou peu, et pareil, dont on attendrait le retour, parce qu'il faisait partie des neufs, c'est le fameux Obi Toppin. Obi Toppin, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur son retour, il y a quelques temps, il a été annoncé qu'il avait besoin d'un peu plus de temps.
On a perdu
sans lui. Tout à fait, et Julius, qui lui barrait des minutes, bah, avec le niveau qu'il a en ce moment, il risque pas de venir inverser la hiérarchie.
Bah,
et en ce moment, bah, du coup, on retrouve Obi Toppin dans les rumeurs de trade, quoi.
Bah, oui.
Pas plus tard qu'il y a 2 jours, une rumeur de trade qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, on a aucun élément pour juger la légitimité de cette rumeur, mais qui évoquerait des discussions entre les Knicks et les Pacers.
Et on sait pas contre
pour
quoi.
Pour un Obi Toppin, on sait pas trop contre quoi. Alors, c'est sûrement pas pour Haliburton, hein, je pense pas. Détendez-vous. Est-ce que c'est pour le fameux Miles Turner? Ben oui, mais en même temps, au poste de pivot, on a un peu du monde, même si Hartenstein, il peut laisser pas mal à désirer parfois. Si Jericho Sims, c'est mignon, mais voilà.
Non, ben...
Et puis perdre Obi Toppin, ça serait perdre une solution au poste 4.
Ben c'est ça.
Voilà, c'est curieux cette histoire, même si on sait que la situation elle est pas favorable à Obi Toppin.
Ben moi je suis partagé
en ce moment,
sur la
et
situation.
Encore moins avec les victoires qui ont eu lieu sans lui, quoi.
Moi je suis partagé sur la situation parce que bon, clairement il s'entête avec ce Hartenstein Sims. On voit que ça marche pas. Ça marche pas.
Ça a marché sur un match contre les Warriors. Parce qu'il joue small ball et puis parce que voilà, Hartenstein a envoyé quelques bonnes passes à Sims, mais autrement, en dehors
mais
de ça,
ça marche pas.
La paire, elle ne donne pas satisfaction quand elle est ensemble.
Non, et puis on ne fait pas jouer Hartenstein, je pense, comme il le faudrait. En fait, Thibodeau veut le faire absolument jouer comme il fait jouer Sims ou comme il fait jouer Mitchell. Et le problème, c'est que ce n'est pas un pivot, c'est pas un pivot comme ça. C'est un pivot qui joue poste haut, c'est un pivot qui a quand même de bonnes mains. On l'a vu hein, sur des séquences là, de belles passes là, quand il fait ses passes quarterback. Et donc c'est quand même quelqu'un qui a de bonnes mains, mais on le fait jouer poste bas. C'est pas un rim protector, c'est pas un super rebondeur. C'est un mec plutôt offensif que défensif. Mais le problème, c'est que la mayonnaise.
C'est un profil différent et c'était bien de tester un autre profil, mais c'est vrai qu'avec bientôt cette mi-saison, bah Hartenstein, c'est pas forcément celui qui donne le plus de satisfaction.
Non.
Et surtout là, on a besoin de rebond, de protection de cercle.
Sims
protège plus, quoi. Après, Sims et Robinson, c'est un peu les mêmes profils. Il y en a un qui est peut-être un peu plus costaud que l'autre. Voilà, mais en dehors de ça, on est sur un peu du copier-coller.
Ouais, mais
Hartenstein,
c'est comme ça
on est sur un profil différent, mais malheureusement. Ça pas.
C'est comme ça qu'il.
Moi,
c'est comme
ça qu'il les aime. Ouais.
C'est comme ça qu'il les aime, Thibodeau. Thibodeau, il les aime comme ça. Et je veux dire que quand regarde son pivot fétiche qui lui a fait sa carrière, c'est Joakim Noah. Et donc bon, après Joakim Noah avait de super mains aussi. Mais tu vois, c'était un pivot du Romal qui se bastonnait. Et lui, c'est ce qu'il veut. Et lui, c'est ce qu'il aime. Hartenstein rentre pas dans sa philosophie. Donc, tu sais, un Hartenstein peut aussi très bien ne plus être là en février. Tu vois, la signature...
Il peut faire partie d'un move parce qu'il a des qualités qui peuvent intéresser. Est-ce qu'il partirait aux Pacers? À voir. Mais en tout cas, en ce moment, c'est la rumeur.
Moi, je dis pas que c'est un mauvais joueur, Hartenstein. Je dis que juste qu'on le fait sûrement pas jouer comme il faudrait le faire jouer. Oui. Donc, mais pour en revenir à Obi, pour ta rumeur de trade... Obi Toppin, moi je le vois pas du tout comme un titulaire NBA ce type là. Moi je le vois comme un joueur de rotation, comme un role player, pas plus. Je le vois pas faire des saisons comme Julius le fait. Il a pas la palette offensive de Julius Randle.
C'est un bon joueur.
C'est un bon joueur. Mais c'est un bon
mais
joueur
avec
de
ses qualités avec ses qualités.
Mais c'est un bon joueur de rotation. C'est pas un bon joueur. C'est pas ce type-là. C'est pas lui. C'est pas ta. Tu t'en feras pas ta deuxième option offensive. Tu vois. Ça va être un dynamiteur de second unit, un energizer. Tu vois. Il va relancer l'équipe avec un gros dunk. Tu vois. Ça va faire du bien au moral à tout le monde. Mais c'est pas le type qui va te faire. Déjà, il a un jeu au poste quasi nul. Hein, je veux dire, tu le vois pas trop jouer au poste. Tu le vois pas trop prendre des petits feuilles de way, tu vois. Enfin, donc, moi, je pense que si elle a une opportunité pour maximiser sa valeur, avant février, je pense qu'il faut pas hésiter. Alors, ça serait un échec parce que c'est un top 6, 8. 8.
8. 8. 8. 8. 8.
Top 8.
C'est le premier pick de draft de
Léon Rose. Donc
c'est
ça sera
un joueur signé dans son agence aussi. Donc ça serait symboliquement assez fort de dire bon bah finalement on trade Obi Toppin
ça serait un échec.
Parce qu'on n'a pas trouvé comment valoriser plus que ça. Quoi.
Mais en même temps tu veux lui filer quoi cet été lui comme contrat?
Ah bah c'est le dilemme entre lui et Emmanuel Quickley. Ils arrivent gentiment mais sûrement à leur fin de contrat rookie. Bah, on peut encore les prolonger une saison et puis les avoir après non restreints. Mais
tu gardes avec entre les deux, tu gardes avec vous. T'es d'accord
quelle
avec
moi promesse on, quelle promesse on peut donner à ces joueurs-là? Effectivement, Obi Toppin, aujourd'hui, il a moins trouvé sa place par la rotation, par l'effectif tel qu'il est construit.
T'es Léon Rose là.
Je garde avec vous. Sur les deux, je garde avec vous. Obi Toppin, j'aime bien ses dunks. Moi, ils me font toujours plaisir, ces bons petits Thomas. Mais je vois pas aujourd'hui comment il arrive à s'inscrire dans la rotation et lui donner 14 minutes, 12 minutes derrière Julius. Bah, c'est trop peu pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, il serait mieux pour lui qu'il aille voir ailleurs. Et il a des qualités pour aller voir ailleurs. Peut-être pas starter, comme tu dis. Mais genre, avec un Haliburton, ça pourrait faire de belles petites choses aux Pacers. Donc,
c'est
une rumeur qui n'est pas déconnante en soi. Après, pour récupérer quoi en contrepartie?
Mais il commence à être
après, un peu de tout et n'importe quoi.
Après il commence à être âgé aussi, hein. Tu vois, regarde, il a.
C'est un rookie qui est arrivé tard. C'est arrivé tard dans la NBA moderne.
Il est de 98. Enfin, moi je veux bien à chaque fois. Oui, le potentiel, mais le potentiel à 40 ans t'en as plus. Hein. Donc moi je pense que j'en ai jamais vu. Mais tu vois, c'est à un moment donné ce type là. On l'a drafté déjà, quand il avait été drafté vachement haut et tout le monde disait ouais mais quand même il est quand même trop haut. Rappelle-toi les débats qu'il y avait eu. Mais il est NBA ready. Bon, il est arrivé.
Oui, physiquement oui. Après en termes de jeu.
Malheureusement pour lui, il est arrivé quand Julius s'est relancé avec la saison Covid. Il est arrivé, Julius s'est relancé alors qu'à la base c'était lui qui devait prendre le truc et Julius devait être traîné. Julius a éclaté, a explosé. Forcément, Toppin a été relégué. Et d'ailleurs, il a jamais réussi à trouver sa place, en tout cas à prendre celle de Julius.
Et aujourd'hui, Julius revient à son niveau type All-Star MIP. Ouais, donc ça va être compliqué après une blessure de revenir dans une rotation tourne, rater des minutes. Quoi.
Le mec, il tourne à 30, on disait 30, à 30-12. Ouais. À 40% à 3 points et à 50%.
Même si, pour moi, Obi Toppin en rotation de Julius, c'est mieux que voir un Jericho Sims au poste 4 avec Hartenstein.
Complètement.
Il serait là aujourd'hui, il jouerait et Sims serait au bout du banc,
mais je suis complètement d'accord avec toi. Si c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Je suis complètement d'accord avec toi.
Mais est-ce qu'il y a la place pour Obi Toppin aujourd'hui?
Mais c'est ça, faut anticiper sur
c'est une petite place, quoi. C'est une petite
place. Anticiper sur ce que tu vas construire dans le futur. Est-ce que tu peux pas trouver une petite place plus à un vet? Tu vois, un mec, tu vas lui filer 15 minutes et voilà. Plutôt qu'à un type à qui il reste encore un bout de potentiel et qui pourrait peut-être s'éclater dans une autre équipe et toi, maximiser sa valeur parce que de toute façon, tu sais que t'en feras rien de ce joueur-là. Donc,
mais attention, quand on dit ça, et je pense qu'on est sur le même longueur d'onde, on dit pas que les jeunes ne se développent pas à New York.
Ah bah non.
Quickley, McBride, Grimes, Robinson, tout ça. Enfin, regardez l'âge Sims. Des joueurs. Dans les joueurs aujourd'hui, dans la rotation des 9, même si Evan est revenu dedans, mais autrement, il n'y a pas quelqu'un de plus de 30 ans. Quoi.
Non mais...
Derrick Rose, ok, mais les joueurs qui sont privilégiés, c'est les jeunes aujourd'hui.
Mais regarde le, dernier, regarde le 5 actuellement qu'on aligne. IQ, drafté chez nous. Juice, drafté chez nous. Grimes, drafté chez nous. Mitchell Robinson, drafté chez nous. Sinon, c'était RJ Barrett, drafté chez nous. On a fait quasiment un 5, hormis Julius. Mais sinon, notre 5 majeur, quand tu mets RJ dedans, pas Brunson. Mais là, ces derniers temps, on a que des mecs qui sont draftés chez nous.
Ouais. Et puis, quand on regarde ce 5 avec les absences, c'est des drafts aussi assez bas.
Hein. Super bas.
C'est du fin de premier tour, voire début de second. Quoi.
Ah oui.
Donc voilà. Donc, oui, les jeunes peuvent avoir leur place, arrivent à se développer, même sous Tom Thibodeau. Après, il n'y a pas la place pour
tout le monde. Mais il y a un tri à faire,
c'est
évidemment.
Compliqué. C'est compliqué. Évidemment. C'est compliqué.
Donc, moi,
y a
je
des
pense
choix.
Que...
Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer.
Mais après, je suis d'accord. Obi, s'il revient, évidemment, c'est un énorme plus offensivement pour l'équipe, et même défensivement, parce que Hartenstein, franchement, il me vend pas du rêve.
Sur rebond, Obi est présent. Ouais.
Oui, carrément. Et puis, il fait les efforts, franchement. Même si c'est pas ouf, mais franchement, il fait les efforts, il court.
Enfin, voilà, l'attitude est là.
Voilà, l'attitude, exactement. On l'aime, hein, Obi Toppin, c'est pas le problème. Hein. Mais après, derrière, quid de l'année prochaine et quid de ce qu'on peut lui proposer et de le perdre contre. Bon, on le perdrait pas contre rien parce qu'on a, on a les droits Bird sur lui, forcément. Mais on va pas re-signer un mec, ou en tout cas s'aligner sur un mec à qui tu donnes 15 minutes, enfin, ça n'a aucun sens. Surtout sur un contrat peut-être de 10-12 millions, parce que je pense que ça sera dans ce range-là qu'il aura un truc. Donc,
il serait mieux pour lui qu'il aille voir ailleurs, qu'on lui trouve une porte de sortie.
Et pour les Knicks aussi, et pour ouais. chez nous, et pour nous aussi, parce qu'au moins on maximiserait un petit peu sa valeur marchande. Quoi. Voilà. Donc,
affaire à suivre. En tout cas, le 9 février, c'est la trade deadline. Jusqu'à présent, Léo Ronze a plutôt bougé avant. Il n'a pas attendu les derniers moments. Donc, on va rester à la vigilant. Et puis, voilà, s'il y a une bombe, s'il y a un trade, on sera là pour débriefer ça à chaud. On verra où, qui, quoi, comment, quand. Mais en tout cas, ça se passera sur KNFTV parce qu'on va suivre ça. Et il y a forcément des choses à suivre ces prochaines semaines. Allez, on a parlé pas mal des joueurs, je vais vous parler d'un autre contenu cette semaine. On va reprendre des bonnes habitudes, on va vous mettre l'épisode numéro 3 de Knicks & Connect. Et oui, les références des Knicks cachées, dissimulées à droite, à gauche, dans la musique, dans le cinéma, dans la mode. L'épisode numéro 3 arrive, on a eu des épisodes plutôt musicaux, on aura d'autres choses qui arrivent ce jeudi sur KNFTV. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous ne l'avez pas déjà mis pour être averti des prochaines vidéos. Le pouce, le like, enfin tout ça, vous abonnez, vous savez, vous connaissez, c'est YouTube, c'est pas nouveau, c'est pas nous qu'allons vous apprendre comment ça se passe ici. Voilà, bah écoutez, c'était l'épisode de rentrée, le 40e épisode de Avenix Week.
Un épisode musclé.
Musclé, il y avait beaucoup de choses à dire, tellement musclé que j'en ai perdu un œil. Mon Dieu. Donc, encore une fois, meilleurs vœux à toute la fanbase, et puis même les trolleurs, hein, on vous aime aussi. Hein. Vous
oui, même ceux, qui, même ceux qui détestent Julius...
Il y en a beaucoup, ou qui détestent les Knicks au sens là.
On fait partie de la même famille, et on sait très bien que des fois, une famille, tout le monde ne s'entend pas forcément.
C'est compliqué. En tout cas, portez-vous bien, on sera au rendez-vous très prochainement pour débriefer sur l'actualité. On a un début d'année qui s'annonce riche aussi en événements, avec les voyages associatifs qui arrivent. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, allez les Knicks, et puis à très bientôt. Ciao, ciao, let's go Knicks.
Salut.
Ciao, ciao, à bientôt. Salut.